France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Dans les années 50, alors que les penseurs des décolonisations africaines fourbissent leurs armes et leurs discours, dans les amphithéâtres de la Sorbonne, on assiste, dans les rues de la capitale, à l'émergence d'une nouvelle culture. Paris devient un centre des cultures noires, africaines, caribéennes, afro-américaines, notamment. C'est cette histoire qui constitue une partie de l'exposition intitulée Paris Noir, à découvrir au Centre Pompidou, à Paris, jusqu'au 30 juin 2025. Alors comment et pourquoi Paris est devenu un centre de l'art noir dans les années 50, une place que la France n'a par ailleurs jamais pleinement assumée. Pour en discuter, pour le comprendre, surtout, Anne Lafont, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne de l'art, directrice de recherche à l'EHESS, vous êtes conseillère scientifique de l'exposition intitulée Paris Noir au Centre Pompidou et autrice de cet ouvrage intitulé L'art et la race, l'Africain tout contre l'œil des Lumières, un ouvrage qui a paru aux presses du réel. Merci d'être présente ce soir dans Question du soir.
Partout où la colonisation s'est manifestée, des peuples entiers ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture. Notre rôle n'est pas de bâtir a priori le plan de la future culture noire, de prédire quels éléments y seront intégrés, quels éléments en seront écartés. Notre rôle infiniment plus humble est de préparer l'avenir de celui qui détient la réponse, le peuple, nos peuples, libérés de leurs entraves, nos peuples et leur génie créateur, enfin débarrassés de ce qui le contrarie ou le stérilise. Nous sommes dans le chaos culturel. Notre rôle est de dire, libérer le démiurge qui seul put organiser ce chaos en une synthèse nouvelle, une synthèse qui méritera, elle, le nom de culture. Une synthèse qui sera réconciliation et dépassement de l'ancien et du nouveau. Nous sommes là pour dire et pour réclamer, donner la parole au peuple noir, laisser entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire.
Et vous avez reconnu, Anne Lafont, la prosodie, la voix vibrante d'Aimé Césaire, un extrait du discours à l'amphithéâtre Descartes de la Sorbonne à Paris lors du premier colloque des écrivains et artistes noirs du 19 au 22 septembre 1956. Et si on a choisi d'entamer cette conversation par ce discours, c'est parce qu'il encapsule peut-être l'esprit de ce qu'est l'art transnational issu de la condition noire. Il faut nous expliquer justement de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce que c'est transnational? Pourquoi est-ce qu'on relie ces espaces-là, l'Afrique, l'espace caribéen et peut-être, l'écosystème afro-américain.
Alors, je crois qu'il y a une période tout à fait fondamentale pour comprendre effectivement ce que c'est l'Atlantique noir, hein, qui est un concept, en fin de compte, qui a été forgé par Paul Gilroy dans un livre de 1993, donc un chercheur britannique, hein, guyano-britannique, dans mes souvenirs d'ailleurs. Il y a un temps de l'histoire européenne qui est lié à la traite transatlantique, donc à la traite des esclaves, et qui donc constitue, si vous voulez, un maillage, en fin de compte, dans la souffrance, bien évidemment, mais un maillage entre les populations africaines, les territoires et les populations américaines, et l'Europe en tant qu'organisateur, finalement, de cette traite. Donc, ça dure pendant 4 siècles, en fin de compte. Donc, ça crée un moment fondateur, matriciel, finalement, de circulation entre Européens, Africains et Américains, et un déplacement, quand même, d'une population noire importante qui se réimplante, notamment dans les colonies caribéennes, mais aussi dans les colonies américaines, du Nord et du Sud. Et puis finalement, il y a aussi un contact avec l'Europe. Donc je crois que, y compris au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cette matrice, hein, d'abord coloniale, avec les vieilles colonies, comme on appelait les Caraïbes, en fin de compte, les colonies antillaises, et les nouvelles colonies, avec, à la fin du XIXe siècle et pendant toute la première partie du XXe siècle, cette incursion, finalement, dans l'Afrique subsaharienne des empires européens, crée une dynamique de circulation, de mobilité qui continue à exister finalement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Est-ce que cette matrice, est-ce que cette vision politique du monde, parce que c'en est une, c'est aussi une façon de retourner le stigmate au fond, de se réapproprier une dimension collective et d'un nouveau rapport à la race?
Alors, Vous avez raison, il y a quelque chose dans ce qu'on peut définir comme l'art noir qui est autant de l'assignation que de la revendication. Mmh. C'est-à-dire que ça contient les deux et je pense qu'il faut garder bien en tête effectivement qu'il y a les deux dimensions. Il y a d'abord, si on pense au temps de la négritude par exemple, on se retrouve ensemble, un étudiant martiniquais, un étudiant de Guyane, Léon Contran Damas, donc l'étudiant martiniquais bien sûr, Aimé Césaire, et Léopold Sédar Senghor, donc qui vient du Sénégal. Et je pense que c'est par leur expérience d'étudiants noirs isolés, qu'ils découvrent, qu'ils ont en commun cette expérience qui est due à une confusion, une, je dirais, une sorte d'assignation où, avant même d'être singularisé par son identité culturelle, on l'est par la couleur de sa peau. Et à partir de là, se bâtit une expérience sociale qui fait que la négritude, le fait d'être noir, conditionne, non pas entièrement, mais en partie, ce que va être son expérience sociale. Donc pour les écrivains qu'ils sont, pour les étudiants qu'ils sont, pour les artistes ensuite aussi.
Pourquoi ces artistes, justement, choisissent-ils comme cadre, comme lieu de vie, comme espace social et de travail, l'Europe ? L'Europe qui reste encore après la guerre et tout au long des années 50, d'ailleurs pour beaucoup de ces pays-là, des lieux d'empire, l'incarnation même des empires. Pourquoi choisissent-ils Paris, Rome, ces capitales en particulier ?
Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que, d'une part, c'est les lieux de pouvoir. Donc, c'est des lieux aussi où sont attirés un certain nombre d'étudiants, justement, des colonies africaines notamment pour former une élite qui serait en quelque sorte l'allié de la puissance coloniale. Donc il y a déjà d'abord une mobilité d'entrants qui est un désir politique de la France dans le cas de Paris. Mais il y a aussi la volonté pour un certain nombre d'artistes noirs, par exemple qui viennent des États-Unis, de trouver un espace social qui n'est pas dans la loi une organisation de la ségrégation raciale, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis, comme c'est le cas bientôt avec les lois d'apartheid en Afrique du Sud. Donc Gérard Sékoto, par exemple, vient à Paris, est à Paris et reste à Paris parce que les lois d'apartheid organisent désormais la vie en Afrique du Sud. Donc il y a différentes dimensions. Un appel à former des cadres, finalement, de la part de la puissance coloniale. Un attrait pour un lieu comme Paris, qui est quand même légalement, qui n'autorise pas une distinction raciale entre les gens, donc un espace social plus libre. Et puis, troisième chose, je crois, dans le cas des artistes, c'est quand même Paris est depuis la fin du 19e siècle une plateforme artistique très attractive, où la question cosmopolite existe déjà depuis l'entre-deux-guerres au moins, où la présence des artistes noirs depuis les performeurs des cakewalks à la fin du 19e siècle, les artistes chocolat, etc. Il y a une histoire longue. Donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, plus l'expérience aussi, je dirais, des tirailleurs sénégalais qui font une autre expérience encore de Paris et de la France, il y a un sentiment que c'est le lieu où on peut en découdre avec le pouvoir, probablement. C'est le lieu où on peut rencontrer aussi des expériences noires qui sont différentes, mais avec lesquelles on peut s'allier. Et puis, Paris est une grande capitale artistique.
Voilà ce qu'écrivent les commissaires de l'exposition Paris Noir 1950-2000. Je les cite. Paris Noir est surtout la synthèse ou une incarnation de la synchronicité de l'expérience noire, dépassant fondamentalement les frontières géographiques. Il s'agit d'affirmer ainsi la capacité à se relier à une expérience commune qui peut être décrit de manière épique comme dans l'Atlantique noir, comme une expérience de dissémination des corps inédite, celle de la traite qui a produit un inconscient commun et global auquel, depuis des géographies distinctes, il est possible et nécessaire de se relier, à partir duquel il est possible et nécessaire de relationner. C'est sur ce dernier terme que je voudrais vous interroger, qu'il est possible de relationner, car cette dimension-là, c'est aussi une façon de rencontrer d'autres personnes, d'autres individus, de se regrouper parmi d'autres artistes.
Oui, alors la question de la relation, c'est vraiment, je dirais, elle a été forgée, pensée, extrapolée par Édouard Glissant dans Poétique de la relation, mais d'une manière générale. Et c'est ce qu'ils tenaient ensemble et qui compte beaucoup, c'est la relation comme l'exercice du récit, en fin de compte, de la narration d'un événement, et la relation comme le lien qui se tisse au cours de cette du récit de ses vies, de ses mémoires, etc. Donc c'est effectivement très important et je pense que dans le cas de Paris Noir, ce qui est clair, c'est que Paris devient une sorte de plateforme avec un certain nombre de structures, l'école des beaux-arts, mais aussi présence africaine, je dirais l'émergence du jazz aussi, comme les clubs de jazz comme des lieux de rencontre, etc., où on peut venir, provenir en tout cas, de situations historiques, politiques, géographiques très diverses, et néanmoins se retrouver autour d'un rapport à la modernité occidentale aussi, qui peut être commun, et qui est à la fois une forme d'attraction aussi, pour tout ce qui est l'expérimentation plastique, de repenser le monde avec des formes plastiques nouvelles, etc. Et en même temps, de se dire, il y a quand même une trajectoire qui est celle des Noirs, même quand on vient d'Afrique, quand on vient des Antilles, quand on est né par exemple, je ne sais pas moi, au Brésil, lorsqu'on se retrouve à Paris, s'ouvre un nouvel espace où on vit une forme de domination, mais où s'exprime aussi la possibilité de revendiquer collectivement une émancipation politique à venir.
Et alors, il faut qu'on parle des lieux, hein, de ces lieux à Paris, ancrés à Paris. Et le premier d'entre eux, c'est évidemment Présence africaine. Je voudrais vous faire entendre la voix d'Aliou Ndiop. C'est une archive de janvier 1959.
Présence africaine, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre d'une équipe. Ce qui nous avait incité à créer cette revue, c'est d'avoir constaté sous l'occupation allemande à Paris combien notre culture était absente de la culture dite universelle. Nous avons constitué un groupe, très modeste au départ. On était simplement un groupe d'étudiants coloniaux. Et alors, nous nous sommes réunis pour savoir quelle était la situation de la culture négro-africaine. Et quel pouvait être son passé, sa grandeur et son avenir. C'est ainsi que nous avons commencé ces cercles d'études d'étudiants qui se sont déroulés d'abord dans une turne du lycée Saint-Louis, ensuite dans d'autres lieux du quartier latin, jusqu'au 184 boulevard Saint-Germain.
Voilà les lieux, hein, le boulevard Saint-Germain, le lycée Saint-Louis, hein, et cette revue Présence africaine, que représente-t-elle, Anne Lafont, notamment dans la perspective, dans le cadre de l'art noir?
Alors, tout d'abord, ils ont consacré des revues entièrement, enfin des numéros de revues plus exactement, précisément à l'art nègre et à la question vraiment de l'art, de la culture, des cultures finalement dans les mondes africains. Donc c'était tout à fait important. Ce qui est intéressant de voir aussi dans ce dont ils témoignent, c'est que ce sont avant tout des étudiants, c'est-à-dire ce sont des intellectuels qui ont aussi été façonnés, je dirais, par l'enseignement académique parisien et français et qui sont tout à fait en mesure d'en tirer, et peut-être particulièrement après l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, d'en tirer toute la substance émancipatoire. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'ils se disent, alors on a vécu ça, on a eu cette formation, on provient de territoires différents, et peut-être qu'en s'assemblant finalement, parce que c'est ça une revue, hein, c'est une communauté d'intérêts, la volonté d'exprimer finalement des choses qui sont moins connues, moins regardées, c'est une manière de faire connaître finalement une communauté, hein, d'organiser une revue. Et ils ont des alliés, et ça je dois le dire aussi, c'est très important pour bien comprendre aussi le Paris noir, il faut restituer un certain nombre d'alliés que sont André Breton, que sont Michel...
Dans la société française.
Dans la société française, bien sûr, et parmi les intellectuels, parmi les artistes. Vous m'en parliez, enfin la première archive, c'était une évocation du premier congrès de 1956, des artistes et des écrivains noirs. L'affiche est faite par Picasso. Je veux dire, il y a vraiment des alliés. Michel Léris fait un premier voyage bien connu par l'Afrique fantôme dans les années 30, dans les, je dirais, entre Dakar et Djibouti. En fin de compte, il en fait un livre, mais en 46, 47, 48, il est invité par Césaire à Fort-de-France pour faire une grande enquête ethnographique sur les communautés noires des Antilles françaises et aussi d'Haïti, qui est bien sûr indépendante, mais avec lesquelles il voit des correspondances. Ensuite, il rentre, sa femme ouvre une galerie, et Louise Léris a une galerie, qu'elle a repris d'ailleurs de la famille Kahnweiler, où elle fait venir des artistes haïtiens, elle les expose, elle les soutient, dont Luce Tournier, par exemple. Donc, si vous voulez, c'est des... Et bien sûr, Michel Léris écrit dans Présence africaine. Je veux dire, c'est des communautés d'artistes noirs, avec des alliés aussi blancs, mais qui font valoir toutes les formes culturelles qu'il est possible de mettre en correspondance. Ils ont des correspondants aux États-Unis, des gens qui écrivent des États-Unis, du Brésil, d'Argentine, d'Afrique, bien sûr. Donc, c'est donner à voir, finalement, quelque chose qui n'est pas assez connu à leurs yeux, avec les moyens qui sont ceux de Paris de 1950, 60, 70, 80, 90, etc.
Lorsqu'on parcourt l'exposition Paris Noir 1950-2000, qui se tient présentement au Centre Pompidou à Paris, on a le sentiment qu'il y a une surreprésentation des artistes afro-américains. Est-ce que d'abord, c'est un biais de notre part, et en réalité, ce n'est pas vrai, même dans l'exposition? Et surtout, est-ce que cela correspond à la réalité historique? Quand on regarde dans le détail, qui composait justement cette communauté? Exactement.
Alors, c'est tout à fait intéressant. C'est un peu le sentiment que j'ai eu aussi. C'est une discussion que nous avons eue aussi avec les commissaires. Et je trouve que leur réponse est tout à fait juste, même si elle n'est pas suffisamment satisfaisante, mm-hmm. elle est très juste. Je crois qu'il y a une surreprésentation quand même des artistes africains-américains et que c'est un petit peu aux dépens de la présence des artistes africains. Mais il faut dire quelque chose qui s'explique par l'histoire elle-même, c'est-à-dire que les communautés africaines-américaines qui se sont constituées d'intellectuels, d'artistes, se sont constituées autour de ces universités qu'on appelle historiquement noires, qui sont des universités de la ségrégation, où on cantonnait finalement les noirs à des enseignements de second cycle qui leur étaient dédiés exclusivement au prix du non, enfin je dirais du non, d'un non-croisement entre blancs et noirs. Et à ce compte-là, on leur a demandé de former des cadres techniques avec un grand savoir-faire pratique, ils voulaient des techniciens supérieurs si vous voulez, et il y a toujours eu donc des enseignements artistiques et un atelier d'artistes dans ces collèges historiquement noirs. Ce qui fait que la constitution je dirais, de pratiques artistiques comme étant aussi relevant d'une politique, réellement une politique de la ségrégation, fait que ça existe depuis très longtemps. Et ils ont gardé ces artistes, ils ont eu des galeries, etc. Ce qui fait qu'il y a un décalage entre les systèmes de formation aux pratiques artistiques dans le milieu américain, par rapport à ce qui s'est fait, notamment dans les anciennes colonies françaises, où on a moins misé là-dessus, si vous voulez. Et donc, je pense qu'en 1950, ce décalage existe encore. Et puis, ces universités ont formé beaucoup d'historiens de l'art, qui depuis des années travaillent sur ces artistes noirs. Donc, il y a un décalage de connaissances, peut-être pas. Et quand vous me dites, mais est-ce que c'est vraiment juste? L'histoire est toujours ajustée, si vous voulez. Donc, dans 15 ans, peut-être pourra-t-on dire, on avait oublié un tel, etc. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de jeunes gens en France maintenant qui travaillent sur les artistes africains, dont on verra les travaux dans quelques années, notamment sur les femmes artistes sénégalaises, par exemple. On verra les travaux dans quelques années, et là, on viendra de nouveau ajuster cette histoire qui est juste tant qu'elle est pas ajusté, en quelque sorte. Donc, je dirais que c'est un
ajustement permanent.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est ce que je voulais dire.
Je voudrais que l'on se concentre sur deux artistes que vous nous racontiez qui ils sont d'abord et que l'on entre dans leurs œuvres plus avant et vous faire entendre la voix du premier d'entre eux. Il s'appelle Beaufort Delaney dans une archive de 1961.
Beaufort Delaney, pourquoi votre nom est-il français?
Dans les occasions, ma naissance.
De votre naissance.
Votre naissance. Un dame. Sagesse avec mon
une
mère.
Sage-femme.
Une sage-femme avec mon mère. Née Beaufort, Caroline, Norte, le sud des États-Unis. Ma mère a une bonne affection pour cette dame. Pour ça, donnez-moi le nom Beaufort.
Dites-nous, Anne Lafont, qui est Beaufort Delaney, un artiste africain-américain, influencé par le post-impressionnisme. Je donne juste ces dates, 1901-1979.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un artiste, c'est vrai que c'est une grande révélation de l'exposition. On le connaissait déjà, essentiellement par des reproductions, en tout cas depuis l'Europe, mais il a fait l'objet de quelques expositions aussi aux États-Unis, puis les œuvres ont été acquises. Donc, c'est un artiste dont la famille suit ce mouvement de la grande migration des années 20 des Africains-Américains vers le nord des États-Unis, où la question des lynchages et de la grande violence qui était faite donc au sujet noir, je dirais, dans le sud des États-Unis, a poussé beaucoup d'entre eux à aller vers le nord. Sa famille s'installe à Boston, et là, il suit un certain nombre de cours dans les écoles d'art bostoniennes. Et ça n'est que vers 1952-1953 qu'il émigre vers la France, donc il a déjà une cinquantaine d'années, hein. C'est pas un jeune homme qui arrive étudiant. Il y est invité par James Baldwin, et il se tient, en fin de compte, avec cette communauté africaine-américaine qui est aussi liée à une possibilité, je dirais, d'une forme de liberté d'identité sexuelle, liberté aussi d'être noir à Paris, qui est plus grande selon eux que y compris dans le Nord, encore sujet à des formes de ségrégation donc aux États-Unis. Alors c'est un artiste dont l'œuvre se révèle notamment par le rapport qu'il noue à l'abstraction. C'est jamais une abstraction tout à fait pure, je dirais, du motif. Il y a toujours des motifs qui se distingue. Je pense notamment à la toile fétiche dans l'exposition, qui est magnifique, où on distingue une statuette africaine derrière une toile très texturée de jaune, en fin de compte. Et c'est vrai que c'est ça, une de ses marques de fabrique, ce jaune solaire est absolument magnifique.
On retrouve aussi dans ce portrait de Marianne Anderson, toile sublime, hein, je l'ai sous les yeux, qui date de 1965, où l'on voit cette femme avec les mains jointes, fond jaune, visage jaune, et c'est tout à fait la couleur que vous évoquez.
Tout à fait, et c'est pareil dans les grands portraits de James Baldwin qu'il fait, il le fait à plusieurs reprises, on retrouve ce travail, en fin de compte, qui est plus un travail, je dirais, encore une fois, au-delà de la couleur, c'est la texture elle-même qui est censée illuminer donc, les portraits de ces modèles.
Autre artiste, autre univers aussi, hein, peintre et artiste visuelle haïtienne, Luce Turnier, qui est-elle ?
Alors ça, c'est une découverte aussi de l'exposition. C'est pour ça que je veux dire à quel point l'exposition touche et ouvre de nouveaux chantiers.
Elle est foisonnante, hein, cette exposition. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
C'est très difficile à maîtriser entièrement, mais bon, c'est un jalon, c'est une exposition explosion. Et puis on fera tout le travail de raffinement, je dirais, de connaissances qui peut se faire après. Mais on avait besoin aussi, une amie à moi disait très clairement, on rattrape 40 ans d'expositions qui n'ont pas eu lieu. Donc ça a les effets bénéfiques de ces défauts. Alors Luce Turnier quand même, parce que c'est intéressant de parler d'elle. C'est une artiste haïtienne, d'origine haïtienne, qui participe d'ailleurs de cette première génération du Centre d'art d'Haïti en 1944 et qui obtient une bourse, si je me rappelle bien, je me demande même si ce n'est pas une bourse d'une fondation américaine, pour venir étudier. Elle passera d'ailleurs du temps aussi aux États-Unis, mais pour venir étudier à Paris. Et c'est une artiste qui fait beaucoup de portraits extrêmement délicats, très fins, mais dans l'exposition, ils ont fait le choix d'exposer ses explorations formelles autour du ronéotype. C'était quelqu'un qui était employé au CNRS, hein, qui avait donc accès à un système de reproduction des documents en particulier et qui a utilisé pour faire des collages tout à fait splendides. Hein. Il y a tout un mur qui lui est consacré dans l'exposition où on voit justement, je dirais, ces couleurs gris camailleux qui sont le propre de la reproduction. Et plutôt que de faire du collage, si vous voulez, avec des photos, elle prend l'option d'utiliser ces ronéotypes. Et donc c'est une artiste vraiment tout à fait intéressante qui retournera souvent à Haïti, qui sera invitée par Lois Mailou Jones, une autre artiste à l'université d'Howard aux États-Unis, donc qui est vraiment dans cette circulation transatlantique entre l'Europe, les Caraïbes et les États-Unis tout au long de sa vie.
Vous l'avez dit, on rattrape grâce à cette exposition, on rattrape des années d'invisibilisation de l'art noir et de tout ce qui s'est passé justement à Paris grâce à ces artistes, à travers l'œuvre de ces artistes. Comment on explique aujourd'hui cette invisibilisation ? C'est un mépris, une indifférence ? C'est une dissimulation volontaire ?
Non, je ne le pense pas. Je pense que c'est plutôt l'entre-soi, le manque peut-être d'ouverture contemporaine à des parcours institutionnels.
L'entre-soi lequel ? C'est l'entre-soi...
L'entre-soi culturel. Qui fait que finalement, des destinées, des trajectoires, des modes de travail qui sont un petit peu plus marginaux ont plus de mal à gagner le centre. Et la concurrence entre artistes est très dure. C'est un milieu extrêmement difficile de toute façon. Par ailleurs, il faut avoir en tête aussi que l'histoire de l'art est faite de redécouvertes. C'est-à-dire que la question du goût, de l'attention à certaines formes artistiques dépend des sociétés et se transforme dans le temps. Il n'est pas anormal qu'il y ait une forme de redécouverte aujourd'hui, comme il y en aura d'autres plus tard qu'on n'avait pas vu venir aussi, je dirais, éveillé, se croit-on aujourd'hui. Donc il y a quelque chose autour de... Un Paris noir, en plus, c'est faire un centre de, encore une fois, de pratiques esthétiques, artistiques et d'origine géographique très hétérogène, puisque les gens viennent d'Afrique, des Caraïbes, des Amériques du Sud, du Nord, etc. Donc en soi, il est difficile, a été difficile pour l'institution, qui fonctionne quand même beaucoup par école, soit mouvement artistique, soit par école régionale.
De les rassembler, d'y voir une cohérence.
D'y voir une cohérence, de comprendre qu'il y avait quelque chose qui était latent, mais qui n'était pas facilement identifiable. Donc je dirais que c'est aussi la pression de nos sociétés, le goût d'aujourd'hui qui fait qu'on a une attente vis-à-vis de ces artistes-là qui les fait émerger. Et ce qu'il faut surtout, c'est que ça tienne, quoi, au-delà de l'exposition.
Que ça tienne et que ça continue. Je voudrais vous ramener en 2019 lorsque le musée d'Orsay présentait une exposition intitulée Le modèle noir, dont vous étiez par ailleurs conseillère scientifique. Qu'est-ce qui s'est passé en 6 ans, justement, vous parliez d'évolution, de mouvement perpétuel, on peut en observer justement au cours de ces 6 années.
Oui, c'est très juste. D'abord, je pense que Paris noir n'a pu exister que parce qu'il y a eu modèle noir avant, même si les enjeux sont très différents. C'est des périodes historiques très différentes où les pratiques artistiques sont vraiment absolument différentes. Modèle noir, le but, c'était de faire émerger dans le corpus patrimonial français, dans l'art français finalement, un certain nombre d'œuvres, de chefs-d'œuvre même, où se trouvaient des noirs qui n'avaient pas été jusqu'à maintenant regardés, vus, étudiés, compris, reconnus, identifiés, attribués, etc. C'était ça le projet du modèle noir et pour le très long 19e siècle. Forcément, avec l'émancipation des noirs, au 20e siècle, la question n'est plus tant de voir dans quelles œuvres ils ont fait l'objet d'un regard, si vous voulez, que de montrer les pratiques artistiques par les noirs eux-mêmes. Donc on est dans un enjeu tout à fait différent. Il s'agit de montrer non seulement l'iconographie noire, on pourrait dire ça, mais surtout les pratiques, les artistes noirs, quels étaient les objets de leur intérêt, comment ils s'y prenaient, quels étaient les parcours, quelles étaient les amitiés. Donc on est dans le Paris noir est plus du côté, si vous voulez, des pratiques artistiques que de l'iconographie.
Merci beaucoup Anne Lafond. Je rappelle que vous êtes historienne de l'art et directrice de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales, conseillère scientifique de cette exposition que l'on recommande, Paris noir au centre Pompidou, à découvrir, je le disais, à Paris jusqu'au 30 juin 2025. Je rappelle aussi le titre de votre livre, L'art et la race, l'Africain tout contre l'œil des Lumières. C'est aux presses du Réel. Merci encore.
Merci.